CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Dans ce MAG aujourd'hui, on vous présentera Charlie Rouleau. C'est un jeune luthier montalbanais. Maya Brunel de CFM Montauban est allée à sa rencontre dans son atelier. On l'entendra dans la deuxième partie de ce MAG. Avant ça, direction la cuisine.
CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Le centre d'art La Cuisine de Nègrepelisse réouvre et on fête ça avec Sylvain Tédon. Bonjour.
Et bonjour et youpi pour la réouverture.
Ouais, carrément, le chargé de com de ce centre d'art et de design qui prévoit plein de choses là dans les jours à venir. On parlera pour le week-end prochain de plein de performances, performances culinaires, performances poétiques, d'ateliers, d'artistes pour demain un herbier comestible de la plante sauvage à l'assiette. Et puis même aujourd'hui, carrément, Sylvain, vous êtes en train de faire fructifier la cour de la cuisine.
Et oui, avec les jeunes du Grétin en formation avec Jérôme Tugaillet qui prépare un travail à travers l'artiste Philippe Charles, un travail sur la fabrication d'un four à pain avec des méthodes traditionnelles et ancestrales de briques crues et cuites. Et puis avec bien sûr la réouverture d'une exposition en cours Seconde Nature de l'artiste Denise Bresciani. Et ça vient de réouvrir depuis mercredi. Et là, cet après-midi, on a le Greta qui fait cette construction, qui vous accueille, qui répond à vos questions pour tous les curieux et tous ceux qui ont envie d'apprendre un peu plus sur les techniques de construction anciennes.
L'exposition, c'est Seconde Nature, elle est à voir jusqu'au 26 juin, ouvert donc dès maintenant. Et il y aura un vernissage le 12 juin prochain. On aura le temps d'en reparler. Sylvain, un herbier comestible pour demain?
Un herbier comestible pour demain dans le cadre de la fête de la nature organisée par la mairie de Nègrepelisse. Il y a plusieurs actions.
Alors c'est une manifestation nationale, hein. Il y a des actions
Ouais,
partout.
C'est une manifestation nationale. Il y en a partout dans toute la France et la mairie de Nègrepelisse. Il y a eu plusieurs choses et notamment hier, il y avait un apéro compost devant le centre d'art La Cuisine. Et puis demain, il y a un herbier comestible qu'on a travaillé avec un étudiant en design graphique et aux Beaux-Arts de Grenoble. Et cet herbier comestible, eh bien, il va vous permettre d'aller explorer l'île de Nègrepelisse, de trouver des plantes sauvages qu'on peut manger. Et ça, c'est avec une maraîchère, Clara Dumont, du jardin des Mille Pas. Il y a aussi un atelier dégustation avec notre chargée des fourneaux, Rebecca Acosta. Et ça, c'est demain matin à 9h30 devant le centre d'art. Il y a toutes les informations sur le site de La Cuisine. Et donc ça, c'est vraiment un moment super qu'on espère partager avec vous.
Le site, c'est www.la-cuisine.fr. Vous êtes à Nègrepelisse et vous nous proposez plein de choses pour le week-end prochain.
Plein de choses à découvrir, une journée complète en fait. Nous travaillons avec le Louvre-Lens, une structure qui s'appelle Autour du Louvre-Lens, qui coordonne toutes les structures culturelles et artistiques autour du Louvre-Lens. Et ils ont une thématique qui est le noir. Et ils ont fait un clin d'œil à un autre centre d'art en France, et c'est celui de Nègrepelisse. Et donc nous proposons une journée d'ateliers de rencontres avec des artistes, des ateliers autour de la création de pain, du levain, avec un artiste Philippe Charles qui est en ce moment en résidence.
Du pain noir.
La création sur la thématique du noir, absolument, du pain noir, des pains charbonneux. Et une autre artiste, Laetitia Bourget, qui va travailler qui a travaillé une boisson qu'on pourra découvrir dans l'atelier du matin. Il y a aussi des performances poétiques avec Sarah Turchetti en continu dans la journée. Et dans l'atelier du donjon, il y a Déborah Nkovaya qui est artiste chef et qui propose une petite performance culinaire à travers une recette ancienne qui s'appelle les œufs de 100 ans. Et ça, c'est à découvrir en continu. Vous aurez aussi la possibilité de les rencontrer, de poser des questions, de voir qu'est-ce qu'elles font en ce moment. Et ça, c'est à vivre et à partager au Centre d'art La Cuisine, samedi 29 mai.
Samedi prochain, donc, Sylvain Tédon, le chargé de communication de ce Centre d'art et de design. Ben, il se passe des choses maintenant, en ce moment même, alors on vous suit.
À La Cuisine, Centre d'art et de design de Nègrepelisse, on est avec Jérôme Tugaillet, artisan spécialisé dans le travail de la terre, qu'elle soit cuite ou cru et d'autres techniques de fabrication anciennes dans le Tarn-et-Garonne. Et on est aussi avec les étudiants du Greta de Montauban et de Hoche qui travaillent sur un projet de four à pain. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors Jérôme, tu es avec ces étudiants aujourd'hui dans la cour pour présenter un peu et monter ce four. Il y a des briques dures, il y a des briques de différentes formes, des briques cuites, et puis il y a cette structure du sable. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, on monte un four de cuisson de pain de petite taille, à la façon traditionnelle des anciens fours à pain. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des adobes de différents formats, plus ou moins trapézoïdales, pour pouvoir être maçonnés avec un mortier de terre en utilisant le moins de mortier possible pour que ça sèche plus rapidement, tout simplement. Donc on a fabriqué ces adobes à hoche. Au centre de formation où je donne donc des cours aux ouvriers professionnels en éco-construction au PEC. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est le Greta associé à l'EEM, l'école européenne des arts et des matières d'Albi, qui propose ça à Hoche. Et donc ici on met en œuvre un four pour cuire du pain.
Et ce four, on pourra le découvrir avec l'exposition de Philippe Charles qui ouvrira le 14 août. Construit avec des techniques traditionnelles du Tarn-et-Garonne, mais de manière globale du Sud-Ouest. C'est un petit four mobile, un peu pédagogique aussi. Et puis on va aller à la rencontre de ces jeunes en formation qui sont aussi en reconversion professionnelle. Avec Thibaut et Raphaël du Greta de Hoche qui interviennent sur la construction du four à pain de Philippe Charles, des techniques anciennes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui à la cuisine ?
Alors, on est venu faire un four à pain, donc pour Philippe, et on est venu aussi pour pouvoir faire la journée portes ouvertes pour les OPEC, enfin les futurs OPEC de l'année prochaine.
Vous, dites-nous en plus un peu sur votre formation, sur votre parcours peut-être, et qu'est-ce qui vous a amené à travailler aujourd'hui la terre ?
Alors, la formation OPEC est une formation assez complète. On va toucher à tout ce qui est bois, paille, terre, chaux. Voilà. Moi, personnellement, je viens d'une formation de charpentier avant. Et j'ai voulu faire cette formation pour diversifier un petit peu mes connaissances et surtout pour pouvoir accéder à une construction plus écologique qui va dans le bon sens, quoi.
Aujourd'hui, sur la construction du four en terre, est-ce qu'il y a des techniques particulières que vous abordez ?
Alors, pas spécialement. Bon, déjà, on a fait la conception en amont hein, pour que aujourd'hui ça puisse se dérouler facilement. Et puis ensuite, bon, on a préfabriqué en amont des adobes de terre qu'on a moulés dans des moules. Et ensuite, là, on est en train de les monter avec du mortier terre. Donc, c'est full terre aujourd'hui. Et donc, voilà les principales techniques qu'on utilise, quoi.
Donc, si on veut vous rencontrer, on peut venir cet après-midi, vendredi, et peut-être venir poser vos questions.
Oui, tout à fait. C'est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions avec le sourire et la bonne humeur.
Eh bien, on espère vous retrouver au Centre d'art à la cuisine. Merci à vous.
Merci. Merci beaucoup, Sylvain Tédon, pour cette visite en ce moment même. Hein, ça se passe en ce moment même à la cuisine, le Centre d'art et de design de Nègrepelisse. C'est-à-dire qu'on peut venir vous voir jusqu'à 18h aujourd'hui.
18h, un plaisir de vous y retrouver.
Merci Sylvain.
Merci à vous.
Et un petit bout de Muse, Résistance dans ce Mac du Tarn-et-Garonne avant de partir à la rencontre de Charlie Roux, le jeune luthier montalbanais.
FM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et la suite de ce MAG avec Maya Brunel de CFM Montauban qui est allée à la rencontre de Charlie Rouleau, jeune luthier montalbanais, dans son atelier du 8 rue d'Auriol à Montauban pour en apprendre un peu plus sur son parcours et son métier.
Charlie Rouleau est un jeune luthier passionné de musique. Depuis ses 12 ans, il prend plaisir à bricoler des guitares avec son père et ouvre en 2018 son atelier 8 rue d'Auriol au cœur de la ville de Montauban. Charlie nous fait découvrir cette profession peu commune entre les murs recouverts de guitares de sa deuxième maison, l'atelier de Charlie où il restaure, fabrique et customise des guitares.
Donc, je m'appelle Charlie Rouleau, je suis le créateur de l'atelier de Charlie. Donc, je fabrique, je répare, je restaure des guitares, principalement des basses aussi. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis installé à Montauban.
Comment est-ce que vous avez eu la motivation, enfin, l'envie de créer cet atelier ?
Depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai commencé la guitare quand j'avais 12 ans. Et très rapidement, j'aimais bricoler dessus, j'aimais retaper des trucs. Et c'était une époque où on n'avait pas Internet. Donc avec mon père, c'était... on essaye de faire quelque chose, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah, tant pis, on recommence. Donc j'ai toujours aimé démonter des guitares, regarder un peu comment c'était fait à l'intérieur et essayer de les améliorer. Et très rapidement, j'ai voulu en faire mon métier à la sortie du collège.
Le métier de luthier, ça consiste en quoi plus précisément ?
Alors moi, mon activité, en fait, ça consiste surtout en de la réparation d'instruments, du réglage. Après, ça va être dans un second temps de la restauration d'instruments vintage et guitares de collection. Et surtout, le cœur de l'activité, ça va être la fabrication d'instruments. Alors moi, je ne fais pas beaucoup d'instruments de série. Je fais surtout de la fabrication sur mesure. Après, de temps en temps, il peut m'arriver de faire des guitares pour avoir des choses à exposer aussi en vitrine, pour montrer un petit peu mon savoir-faire. Donc c'est un petit peu tout ça à la fois, quoi.
Et au niveau de la formation, comment est-ce qu'on fait pour devenir luthier ? Est-ce qu'il y a des études à faire ou pas ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend seul ?
Alors, chaque luthier a un petit peu son parcours. Moi, j'ai commencé en autodidacte avec mon père. Et au départ, je voulais faire ça, mes parents ne voulaient pas. Donc, j'ai dû passer mon bac parce qu'ils voulaient que j'aie mon bac. Et ils voulaient que je fasse des études derrière, donc j'ai fait des études. Mais à côté, j'ai toujours gardé des guitares à retaper, à refaire, à régler. Donc ça a commencé au lycée où je réglais, je réparais des petites réparations pour des guitares, pour des potes. Et au fur et à mesure, j'achetais des vieilles épaves que je retapais et que je revendais à des amis pour me faire un peu de sous. Et quand j'étais à la fac, j'ai commencé un petit peu à essayer de fabriquer des instruments. Au départ, moi, j'avais fait des études d'histoire et d'histoire de l'art. Donc j'ai fait mes 2 licences et j'ai fait mon master. Et arrivé après 6 années d'université, j'en ai eu un peu marre. Donc je me suis inscrit à l'école du Mans, l'ITEM, qui est une école spécialisée dans la lutherie. Et donc j'ai fait mon école. Ensuite, j'ai travaillé chez un luthier à Bordeaux, Jean-Raphaël. Et ensuite, j'ai ouvert mon atelier, je me suis installé.
Et c'est quelque chose qui est compliqué à faire, d'ouvrir un atelier
C'est un parcours qui est assez long, l'ouverture d'un atelier, parce que c'est un métier qui est quand même assez rare. Donc, il faut déjà trouver le bon endroit où s'installer, parce que là, il faut trouver une clientèle, il faut pouvoir être connu aussi assez rapidement. Donc, après, c'est tout un parcours avec les banques, avec les assureurs, avec tous ces organismes-là. Moi, la création d'entreprise, c'est un processus qui m'a pris 3 mois avant l'ouverture. Donc, oui, c'est une question de motivation et d'envie aussi. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'on fait rarement la même chose 2 fois. On va avoir des instruments un peu d'exception, on peut avoir des instruments un peu rares, des instruments un peu loufoques, et puis on peut avoir des réparations hyper intéressantes, hyper délicates à faire. C'est aussi quelque chose qui est motivant d'avoir des grosses restaurations. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai restauré une guitare des années 80, une Kramer, avec le manche qui était démoli en 3 ou 4 morceaux. Donc là, ça a été tout un travail de collage, refaire le fretage, le vernis, le coloris, et faire en sorte que ma réparation, en fait, ne se voit pas. Dans le sens où on a l'impression que la guitare n'a jamais été cassée et que c'est une guitare qui n'a pas été touchée depuis les années 80. Donc ça a été tout un travail de teindre du bois pour simuler les UV, faire un peu d'usure sur le vernis pour simuler une guitare qui a été jouée. Donc c'est voilà, ce genre de récupération qui est toujours vraiment cool à faire, quoi. J'ai eu quelques beaux instruments qui sont passés dans mes mains, des instruments qui sont toujours très cool. La première guitare que j'ai eue quand j'étais en stage chez Jean-Raphaël, par exemple, c'était une Gibson Custom des années 60. Elle était de 64. C'était une guitare qui avait été massacrée dans les années 80, qui avait subi les années 80 dans la gueule. Donc le manche était défoncé, les trois quarts des pièces avaient été changées, et la guitare avait vu... Enfin, quelqu'un l'avait retapé lui-même dans son garage, donc il a fallu rattraper tout ça. Ça avait été un super beau projet, et pour une guitare qui était vraiment, vraiment magnifique. Après, dans des modèles un peu rares que j'ai pu avoir en main, j'ai eu par exemple de la Gibson Tal Farlo, qui est vraiment un modèle que j'adore. Une guitare jazz des années 50, 60. Et après, des modèles un petit peu plus courants, mais qui sont toujours cool à voir, de la vieille Strat, de la vieille Telecaster. Et là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une précision basse de 1958, qui est la deuxième année de fabrication de la deuxième version de ce modèle. Et à l'époque, il signait encore au crayon à papier sur le manche, dans le corps. Donc on a la signature du mec encore sous vernis qu'on peut voir. Il y a la date qui est faite au crayon à papier sur le talon du manche et dans le corps. Et juste de voir ça, c'est juste trop cool, quoi. On voit encore les traces du luthier 60 ans après, c'est juste énorme.
Il y a un projet comme ça qui vous fait un peu rêver, quelque chose que vous aimeriez, un modèle par exemple que vous aimeriez vraiment restaurer ou faire ou...
Ça c'est compliqué parce qu'il y a toujours il y a plein de choses que j'ai envie de faire, il y a plein de choses que j'ai envie de retaper, sur lesquelles travailler. Là par exemple, j'ai vu sur un site de vente une vieille Gibson U-Harp de 1913. En fait, c'est une guitare avec une excroissance, un deuxième manche, mais c'est pas vraiment un manche en fait, où c'est des cordes flottantes pour faire des basses par-dessus. Donc c'est une guitare qui a 18 cordes en tout. C'est bien ça. Et il y en a une qui a restauré. J'aimerais bien faire ce genre de projet, c'est toujours des choses très cool. En plus, c'est un instrument qui est centenaire, qui est un peu mythique, qui est quand même assez rare. Après, c'est toujours un petit peu difficile de se dire j'ai envie de faire ce projet, parce qu'on sait jamais vraiment sur quoi on va tomber, quoi.
Vous êtes à la recherche de quelque chose qui est par exemple dans un projet, vous cherchez, qu'est-ce que vous recherchez comme quelque chose qui est plus compliqué ou quelque chose qui est plus, une certaine sonorité, un certain type
Alors moi j'ai un goût vraiment pour les guitares américaines années 50-60, c'est vraiment le cœur principal de ma recherche dans ce que j'aime, quoi. La Strat, de la Gibson de ces époques-là, c'est toujours impressionnant d'avoir ces instruments-là dans les mains, à restaurer aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, surtout dans les instruments, c'est les anecdotes qu'il y a autour. Quand les clients viennent et disent voilà, c'est la guitare que mon père m'a offerte quand je suis rentré au lycée et j'aimerais bien la retaper. Ou ce genre d'anecdotes, c'est vraiment ce qui me fait kiffer aussi dans ce métier, quoi.
Donc l'histoire.
Vraiment les trois quarts du temps, quand je prends des réparations vraiment difficiles, c'est parce qu'il y a une histoire derrière qui est vraiment sympa, quoi.
En termes d'histoire, est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose comme ça qui vous a vraiment marqué dans votre parcours
L'une des toutes premières réparations que j'ai eues quand je me suis installé, c'était un père de famille qui m'avait amené la guitare de son fils qui était décédé et il voulait la retaper pour pouvoir rejouer sur la guitare de son fils. Donc ça avait été un moment qui était quand même assez fort quand il était venu récupérer la guitare. C'était pas en plus une guitare exceptionnelle, c'était pas un instrument ultra haut de gamme, c'était une guitare un peu standard. Mais son fils était parti en Afrique, il était tombé malade et il était décédé là-bas. Et il avait sa guitare et du coup il voulait que je la retape pour pouvoir rejouer sur la guitare de son enfant, quoi. Ça avait été une histoire qui était vraiment cool, enfin, vraiment, vraiment folle.
Au niveau du Covid, comment est-ce que ça se passe pour vous dans votre atelier
Alors moi, la partie atelier est ouverte puisque je fais partie des commerces déclarés comme essentiels par l'État. Mais après, le problème, c'est que les gens ne se déplacent pas forcément, donc forcément le chiffre d'affaires a chuté énormément. Mais après, ça me permet moi de rattraper un petit peu toutes les réparations que j'avais en retard. Donc après, bon, je fonctionne avec le système du click and collect, du rendez-vous. Donc en fait, les clients m'appellent, on prévoit ensemble un créneau d'une heure à peu près pour regarder l'instrument dans son ensemble, voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire et faire un devis à partir de là. Et pareil pour les gens qui viennent récupérer leurs instruments, on prend ensemble un rendez-vous avec un créneau d'une heure pour que la personne puisse vraiment essayer son instrument, voir si tout est conforme à ses attentes. Et puis ensuite, pour tout ce qui est la partie vente, c'est surtout via ma page Reverb sur Internet.
Est-ce que vous avez des projets, on va dire, pour le futur au niveau de votre atelier, pardon?
Là, en fait, déjà l'an dernier, je voulais fêter les 2 ans de l'atelier. Ça tombait en mars. Confinement oblige, je n'ai pas pu fêter mes 2 ans. Je voulais fêter les 3 ans de l'atelier ce mois-ci. Et confinement oblige, je n'ai pas pu fêter mes 3 ans. Donc... à la sortie du confinement, j'aimerais bien organiser quelque chose pour fêter les 3 ans d'atelier. Donc ça, c'est encore en projet. Après, dans quelque chose un peu plus global, j'aimerais beaucoup me mettre à fabriquer des amplis. C'est quelque chose qui m'a toujours fait envie. Mon père est électronicien, donc quand on a commencé à travailler sur des grattes ensemble, à réparer 2-3 trucs ensemble, très rapidement, on a toujours eu envie de faire un ampli tous les deux, une copie d'ampli lampe. On voulait partir sur un Orange MK, MK2 qu'on voulait faire. On n'a jamais eu le temps de le faire. Donc c'est vraiment un projet qui me tient encore à cœur, que j'ai toujours envie de faire.
Donc projet peut-être à venir.
Peut-être à venir, oui. Si tout se passe bien.
Là, je vois qu'on on est complètement entouré de plein de modèles de guitare. Est-ce que vous pouvez nous présenter certains des modèles?
Alors, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de réparations, en fait, qui sont en attente d'être récupérées. Après, il y a des instruments qui sont en dépôt. Et puis, il y a quelques guitares qui sont quand même un petit peu rigolotes. Par exemple, on en a une qui est une sorte de Telecaster un peu hybride, un peu chelou. Des années 70, en fait, qui a été fabriqué en Europe de l'Est. C'est des guitares qui sont complètement finies à l'arrache. Le vernis a craquelé de partout, il est parti à moitié. La touche est complètement plate. Mais c'est une guitare qui, étonnamment, a un son de fou. Alors que c'est vraiment de la technologie Europe de l'Est, époque soviétique, quoi. Donc, y a des pièces qui sont faites avec les moyens du bord. Ce genre d'instrument, ça me fait toujours rigoler parce que ils arrivent à mettre en place des solutions à des problèmes auxquels on n'aurait pas pensé. Donc c'est toujours très drôle à avoir en main. Donc là, c'est une Jolana Iris pour ceux qui veulent chercher. Et puis après, à côté, on a vraiment le strict opposé. On a une. Là, par exemple, ça, c'est une Gibson ES340 qui a été fabriquée en 69. C'était un modèle. Un peu plus haut de gamme que la 335 pour Gibson à l'époque. Ils l'ont fabriqué que pendant 5 ans, entre 68 et 73. Et après, bon, il y a des petites différences par rapport à la 335. Mais c'est un modèle qui n'a pas marché à l'époque, donc ils ont arrêté la production très rapidement. Donc il y en a quand même assez peu au final. Donc voilà ce genre d'instruments qu'on peut avoir à l'atelier, qui sont cool à voir et puis qui ont des petites histoires derrière qui sont quand même très drôles, quoi. Alors là, on est sur une Telecaster. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, je me suis basé sur un modèle de 62 avec corps en aule, de manche érable, touche palissandre, électronique micro Fender Yosemite et un vernis rose corail du plus bel effet. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'adore, c'est vraiment mon kiff. J'ai commencé la guitare au collège vraiment sur un coup de tête. avec un ami, on écoutait les mêmes groupes, on s'était dit ouais, on va faire un groupe de rock, toi tu feras la guitare, moi je ferai le chant. Donc du coup je suis rentré chez mes parents le soir et j'ai dit bon, faut que j'ai une guitare parce que j'ai un groupe de rock et on répète ce week-end. Et mes parents ont rigolé, ils ont dit mais non, mais il faut prendre des cours avant, tu sais pas jouer. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça qui parsèment un peu le parcours de tous les guitaristes qui font qu'on a vraiment un attachement à l'instrument parce qu'il y a toujours des choses à raconter, des anecdotes qui se passent. Et oui, après je sais que c'est quelque chose que je vais garder en moi toute ma vie, quoi.
Pour retrouver Charlie Rouleau, c'est au 8 rue d'Auriol à Montauban et à l'atelier de Charlie sur Facebook et Instagram.
Et pour retrouver ce reportage de Maya Brunel ainsi que ce mag en son entier, direction cfmradio.fr. Pour tout de suite, les